France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Polémique autour de la sécurité du Louvre. Après l'incroyable cambriolage dans la galerie Apollon, les salariés du musée pointent les défaillances du musée pour protéger ses trésors. Ce vol a suscité d'innombrables réactions sur les réseaux sociaux avec son lot de fausses informations. Page spéciale dans ce journal avec Pierre Ropert et Antoine Deyana. Nicolas Sarkozy reçu à l'Élysée vendredi dernier, 4 jours avant son incarcération à la prison de la Santé demain. Il était normal sur le plan humain de recevoir l'ancien président, se justifie ce soir Emmanuel Macron. Kering, le géant français du luxe, vend sa division beauté à L'Oréal, le leader mondial des cosmétiques. Kering compte sur cette vente pour accélérer son redressement. Nous verrons cela avec Hakim Kasmi. L'Union européenne veut en finir avec le pétrole et le gaz russe qui alimentent la machine de guerre de Vladimir Poutine. Les importations de ces hydrocarbures seront interdites à partir du 1er janvier 2028. Il aura donc suffi de 8 minutes aux cambrioleurs du Louvre pour susciter une émotion mondiale. Le commando de 4 hommes reste introuvable ce soir. À l'aide d'un monte-charge et d'une disqueuse, ils ont raflé hier dans la galerie Apollon du musée 8 joyaux de la monarchie et du Second Empire, des bijoux d'une valeur inestimable selon les autorités. Dans leur fuite au guidon de puissant scooter, ils ont abandonné la couronne de l'impératrice Eugénie retrouvée par terre. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a ordonné une enquête administrative pour, dit-elle, avoir un vrai déroulé de ce qui s'est passé. Pierre Ropert, bonsoir.
Bonsoir.
Les salariés du Louvre et leurs syndicats se sont entretenus aujourd'hui avec la direction pour demander des explications et pour dénoncer les failles dans la sécurité du musée le plus visité au monde, Pierre. Près de 9 millions de visiteurs annuels.
Oui, et pour encadrer ces visiteurs, ce sont plus de 1000 agents de surveillance qui arpentent chaque jour les couloirs du Louvre. Cet après-midi, nombre d'entre eux ont tenu à faire savoir qu'ils n'avaient pas failli à leur mission, d'autant plus qu'ils n'ont pas de force de coercition supérieure à celle d'un simple citoyen, rappelle Frédéric Serrier. Cet agent de surveillance au musée du Louvre et délégué syndical Sud Culture Solidaire était présent hier sur les lieux du vol.
Les agents de surveillance ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme alors qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre en termes de risque pour leur vie. Moi, j'aimerais bien voir tous les experts autoproclamés de la sécurité des musées face à une tronçonneuse industrielle. Donc, moi, ça me semble évident que les agents de surveillance ont rempli parfaitement leur mission avec les moyens qu'on leur donne et que leur intervention a été déterminante dans la suite des événements parce que les malfrats n'ont pas pu voler tout ce qu'ils voulaient et ils n'ont pas pu faire disparaître les preuves avant de s'en aller.
Les agents de surveillance, donc, ont rempli leur mission en sonnant l'alerte et en évacuant les visiteurs, assure Frédéric Serrier. Aujourd'hui, ils ont demandé des explications à leur direction et pointé du doigt les alertes déjà lancées. Depuis 2014, l'équivalent de 250 temps pleins ont été perdus.
Le sous-effectif permanent fait que nous avons beaucoup de mal à accueillir le public du monde entier comme nous le devrions et qu'il y a beaucoup trop de salles fermées à notre goût, que nous devons subir la colère des visiteurs. Oui, les agents sont à bout et les agents demandent des actions fortes. Ce sont les agents qui ont fait preuve de plus de professionnalisme hier, qui doivent quémander en permanence d'avoir plus d'effectifs, plus de moyens. Voilà les inquiétudes de nos collègues et voilà pourquoi ils parlent d'exercer leur droit de retrait, ils demandent des explications à la direction.
La détresse des salariés pourtant n'a pas été complètement entendue aujourd'hui, poursuit le représentant du personnel, et les agents de surveillance sont donc restés sur leur faim. La direction a appelé à l'unité face à cette épreuve, tout en éludant la question des effectifs.
Pierre Ropert, merci. Le Louvre est resté fermé aujourd'hui et il le sera encore demain mardi, puisque c'est le jour hebdomadaire de fermeture. Mais le musée est partout sur les réseaux sociaux, car le cambriolage a provoqué une véritable onde de choc dans le monde entier au point de devenir viral. Et dans les milliers de posts et de vidéos consacrés au Louvre depuis hier, beaucoup de fake news, de fausses informations. Antoine Deyana, vous avez fait le tour de ces intox pour l'agence de vérification de Radio France.
Aujourd'hui, le Louvre a connu le braquage le plus spectaculaire de son histoire.
C'est l'une des vidéos les plus virales du moment. On y voit soi-disant des images de vidéosurveillance montrant les braqueurs en pleine action. Sauf que cette vidéo est fausse. Aucune image des caméras de surveillance du Louvre n'a été diffusée. Mais elle participe à un récit qui passionne, celui d'un casse à la Lupin ou à la Casa de Papel version Netflix. Résultat des vidéos qui abondent sur les réseaux, affirmant qu'un employé du musée aurait aidé les braqueurs ou que de l'ADN retrouvé sur place mènerait déjà aux auteurs.
Les deux personnes habitant à Mantes-la-Jolie affirment ne pas se connaître ni s'être déjà vues.
Toutes ces informations sont fausses, des vidéos racontées sur le ton de l'enquête journalistique, mais qui servent surtout à faire du clic et des vues pour être monétisées par leurs auteurs. Et certains ne se contentent pas de parler de l'identité des suspects, ils affirment aussi qu'ils ont déjà été arrêtés.
La police française vient d'arrêter les individus mal intentionnés qui ont volé les bijoux.
D'autres se risquent même à estimer le butin, plusieurs millions, dizaines de millions, voire 4 milliards d'euros. En réalité, les autorités parlent d'une valeur patrimoniale inestimable. Et quand ce n'est pas pour désinformer, certains utilisent l'intelligence artificielle pour tenter de faire rire à partir de ce braquage.
Découvrez le nouveau coffret Playmobil Cambriolage du Louvre.
Image choc ce soir, Emmanuel Macron pointé du doigt comme l'auteur principal du cambriolage du Louvre.
Des montages drôles pour certains, inquiétants pour d'autres, car derrière l'humour, il montre à quel point il est facile aujourd'hui de fabriquer de fausses images ou de fausses voix à l'aide de l'intelligence artificielle.
Antoine Deyana de l'agence de vérification de Radio France a noté enfin qu'une société israélienne spécialisée dans le renseignement affirme avoir été contactée par le musée du Louvre pour enquêter sur ce cambriolage. CGI Group, basée à Tel Aviv, met en avant son expérience. La société dit avoir aidé à la résolution d'un vol de bijoux dans un musée de Dresde en Allemagne en 2019. La direction du Louvre dément ce soir avoir sollicité cette société israélienne. Emmanuel Macron a reçu Nicolas Sarkozy vendredi à l'Élysée, soit 4 jours avant l'incarcération de l'ancien chef de l'État. C'est demain, mardi, que l'ex-président doit rejoindre la prison de la Santé à Paris après sa condamnation à 5 ans de prison dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. C'est la première fois dans l'histoire de la République française et de l'Union européenne qu'un ancien chef de l'État dormira derrière les barreaux. Pour Emmanuel Macron, il était normal sur le plan humain de recevoir son prédécesseur. L'actuel président s'en est brièvement expliqué aujourd'hui en Slovénie, en marge d'un sommet des pays méditerranéens de l'Union européenne. Paul Barcelone, vous avez suivi la conférence de presse d'Emmanuel Macron.
Oui, est-ce vraiment le rôle d'Emmanuel Macron recevoir Nicolas Sarkozy à l'Élysée ? Est-ce une marque de soutien, un geste d'affection ? Le président comprend-il l'émotion que cela peut susciter devant le symbole, lui le garant des institutions ? Alors que son prédécesseur sera incarcéré demain matin à la prison de la Santé, Emmanuel Macron répond en assumant.
J'ai eu des propos publics toujours très clairs sur l'indépendance de l'autorité judiciaire, dans le rôle qui est le mien, mais il était normal que... Sur le plan humain, je reçois un de mes prédécesseurs dans ce contexte.
Si Emmanuel Macron avait condamné les attaques contre les magistrats, on ne sait pas grand-chose de ce rendez-vous qui a eu lieu vendredi à l'Élysée. L'entourage d'Emmanuel Macron a d'abord misé sur la discrétion avant de confirmer l'entrevue, tout en gardant le silence sur la teneur des échanges. Incontestablement, il s'agit d'un geste et d'une attention toute particulière. Un rassemblement de soutien est prévu dans le 16e arrondissement de Paris demain matin. Sur France Inter, tout à l'heure, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a lui affirmé qu'il irait voir Nicolas Sarkozy en prison.
Paul Barcelone, envoyé spécial en Slovénie, à propos de l'initiative de Gérald Darmanin qui veut aller voir Nicolas Sarkozy en prison. L'Union syndicale des magistrats, le syndicat majoritaire, dénonce une démarche médiatique. Selon le président de l'USM, Ludovic Fria, le garde des Sceaux doit veiller à se tenir à distance des affaires traitées par l'autorité judiciaire. Fin de citation. Jamais la défiance à l'égard du personnel politique n'a été aussi forte en France, révèle l'étude Fracture française, publiée aujourd'hui, une enquête annuelle réalisée par l'Institut Ipsos, pour Le Monde, la Fondation Jean Jaurès, l'Institut Montaigne et le CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po. Alors que la Ve République traverse une crise politique sans précédent, les chiffres sont sans appel. 80% des personnes interrogées ne font plus confiance au président et 90% rejettent les partis politiques traditionnels. Ce qui alimente cette défiance, c'est notamment le sentiment que la France est en déclin et qu'il n'y a aucune perspective d'amélioration. Écoutez à ce sujet l'analyse du politologue Luc Rouban qui a participé à cette étude sur les fractures françaises.
Vous avez un sentiment de déclin personnel des enquêtés, c'est-à-dire que les enquêtés eux-mêmes vous disent « ma situation personnelle ne va pas s'améliorer ». Il y en a à peu près 10% seulement qui vous disent que leur situation personnelle va s'améliorer. Donc, associé au déclin de la France, vous avez l'idée de situations socio-économiques personnelles qui sont difficiles, avec des conditions de vie qui se dégradent. Et en réalité, on se retrouve, si on lit un petit peu en termes politiques les résultats de l'enquête, c'est très ambigu parce qu'à la fois, vous avez un attachement évidemment à la démocratie, mais aussi, dans le fond, l'idée qu'il y aurait d'autres systèmes au moins aussi efficaces pour l'amélioration des conditions de vie, donc des régimes plus autoritaires. Donc vous avez ce trumpisme d'ambiance qui, quand même, a largement contaminé l'espace politique français, surtout les électeurs, qui considèrent que bon, la démocratie, c'est bien, mais là, elle ne fonctionne plus. Hein, et non pas comme protectrice des valeurs, des libertés, mais comme moyen de prendre des décisions.
Le politologue Luc Rouban répondait à Stéphane Robert. L'actualité économique est dominée ce soir par les grandes manœuvres dans l'industrie du luxe. Le groupe français Kering, contrôlé par la famille Pinault, a décidé de vendre sa division beauté à son compatriote L'Oréal, le numéro 1 mondial des cosmétiques. Montant de la transaction, 4 milliards d'euros. Kering avait créé sa division beauté en 2023 en rachetant notamment Creed, une marque de parfum de luxe. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Avec cette vente, Kering espère réduire son endettement et poursuivre son redressement.
Oui, effectivement, ces derniers mois, les difficultés du groupe de luxe Kering se sont accumulées avec, en juillet, une baisse de 46% de son bénéfice net au premier semestre, soit 474 millions d'euros. Et c'est surtout sa marque phare Gucci qui lui fait perdre le plus d'argent ces dernières années, car ses ventes sont en baisse particulièrement en Chine. Alors qu'elle représente à elle seule 44% de son chiffre d'affaires et les deux tiers de sa rentabilité opérationnelle. Pour redresser les comptes, son nouveau PDG, Luca De Meo, qui vient de chez Renault, souhaite donc se recentrer sur ses marques de mode beaucoup plus rentables, contrairement à ses produits de beauté, dont la marque la plus connue est Balenciaga, comme l'explique Isabelle Chabou, professeure de finance et spécialiste du luxe à Grenoble École de Management.
J'avais comparé les différents players, LVMH, Hermès, Kering, L'Oréal. Et par exemple, Kering avait une dette financière qui représentait 94% de ses capitaux propres, contre 34% par exemple pour LVMH, 20% pour L'Oréal et 0% pour Hermès. Donc on voyait qu'ils étaient vraiment très endettés par rapport à leurs concurrents. Parce que qui dit endettement dit des charges d'intérêt financières. On augmente son endettement plus en général, on augmente ses charges d'intérêt à payer sur ses emprunts, surtout quand les taux remontent et donc ils avaient des charges financières assez élevées. Et puis, c'est quand même pas leur métier, on va dire, vraiment de base sur lequel ils ont une vraie expérience, contrairement à L'Oréal qui travaille dans la beauté depuis 120 ans et qui a une expertise et toutes les infrastructures et puis les usines pour pouvoir développer tous ces produits.
Une dette qui s'évalue aujourd'hui à environ 9,5 milliards d'euros. En attendant, la cession qui devrait être effective au premier semestre 2026 devra encore avoir la validation de l'autorité de la concurrence, car avec ce rachat, L'Oréal, qui domine déjà le marché mondial des produits de beauté, risque encore d'accroître sa concentration dans ce secteur.
Explication signée Hakim Kasmi. L'Union européenne veut se passer totalement du pétrole et du gaz russe au 1er janvier 2028. C'est le résultat d'un vote des ministres de l'énergie des 27 États membres ce midi à Bruxelles. L'objectif étant de tarir l'une des principales sources de financement de l'économie de guerre russe, Fabien Cazot.
L'interdiction du pétrole russe était déjà actée pour l'année prochaine. Il ne représente plus aujourd'hui que moins de 3% des importations européennes. En revanche, du gaz russe continue d'arriver en plus grande quantité par gazoduc et par voie maritime sous forme de gaz naturel liquéfié. Le vote d'aujourd'hui à la majorité qualifiée a permis de contourner les réticences de la Hongrie et de la Slovaquie, encore très dépendantes à ce gaz russe. Une victoire pour le commissaire européen à l'énergie, Dan Jorgensen.
C'est un jour important aujourd'hui. Pendant beaucoup trop longtemps, nous avons permis à Poutine d'utiliser son énergie comme une arme contre nous. Pendant beaucoup trop longtemps, nous avons été dépendants du gaz provenant d'un pays agresseur qui mène une guerre illégale en Ukraine. On ne fait pas qu'envoyer un message très clair aujourd'hui. Cela aura aussi des effets concrets car moins d'argent parviendra à la Russie à l'avenir.
Les hydrocarbures russes seront également visés par le 19e paquet de sanctions économiques qui devrait être dévoilé dans les prochains jours. Il allongera encore la liste des navires russes sous sanctions, ceux appartenant à cette flotte dite fantôme, transportant clandestinement des hydrocarbures. Les principales compagnies russes du secteur, Rosneft et Gazpromneft, devraient également faire l'objet de nouvelles sanctions.
Fabien Cazot, correspondant à Bruxelles. Sur le plan diplomatique, Emmanuel Macron estime que les Européens devront être autour de la table du prochain sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le président américain doit rencontrer prochainement son homologue russe à Budapest pour discuter d'un cessez-le-feu en Ukraine. Volodymyr Zelensky se dit prêt, lui aussi, à participer à ce sommet en Hongrie. Par ailleurs, la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, qui critique Donald Trump, qui presse le président ukrainien d'accepter un cessez-le-feu. Mettre la pression sur l'Ukraine n'est pas la bonne approche pour stopper l'agression russe, affirme Kaya Kallas. Il aura suffi d'une panne du service cloud d'Amazon pour qu'une partie du web mondial s'arrête aujourd'hui. Plusieurs sites, jeux en ligne ou applications sont restés inaccessibles ce matin, parmi lesquels Snapchat, Airbnb ou bien Fortnite. À l'origine, une défaillance de la plateforme cloud d'Amazon qui stocke des données en ligne, Amazon Web Service. L'affaire illustre la dépendance croissante de nombreuses entreprises mondiales, dépendance aux géants américains de la tech. Les explications d'Isabelle Labéry.
En une fraction de seconde, des millions d'utilisateurs ont perdu l'accès à leurs applications, plateformes de jeux et réseaux sociaux. Les sites internet de plusieurs universités, services gouvernementaux, banques, compagnies aériennes ont aussi été touchés, souvent contraints d'afficher le message « erreur 404 ». Ce dysfonctionnement, rapidement identifié, est lié au système de nom de domaine d'Amazon qui permet de convertir les adresses web en adresses IP pour que les sites se chargent correctement. La même panne s'était déjà produite en 2021 et l'an dernier, en juillet, un autre bug, lié cette fois à une mise à jour logicielle, avait provoqué la pagaille dans les aéroports et les hôpitaux. Alors qu'Internet est désormais quasiment considéré comme un service public, il suffit d'un grain de sable pour que l'écosystème numérique vacille. Car toute la maintenance du monde en ligne repose sur une poignée d'acteurs. Amazon, Microsoft ou Google. AWS représentait l'an dernier 37% de la part de marché mondial du cloud. Cet incident n'est donc pas qu'un contretemps technologique. Il illustre la dépendance des entreprises qui sous-estiment le risque de ce type de concentration et continuent à externaliser leur infrastructure à un nombre restreint de fournisseurs. Cette panne gigantesque a toutefois fait un heureux, Elon Musk, qui s'est moqué d'Amazon et en a profité pour promouvoir une nouvelle fonction de son réseau social.
Isabelle Labéry, correspondante de France Culture à Atlanta, aux États-Unis. La Colombie dénonce une menace d'invasion de la part des États-Unis, et cela après la mise en garde la veille de Donald Trump, qui avait évoqué une possible intervention américaine si Bogota n'arrêtait pas immédiatement la production de drogue. Le ministre colombien de l'Intérieur, Armando Benedetti, affirme qu'il s'agit là d'une menace d'invasion ou d'action terrestre ou militaire contre la Colombie. Le président américain a multiplié ces derniers jours les critiques contre son homologue colombien Gustavo Petro. Retour à l'actualité française avec cette question. Les rues parisiennes sont-elles plus sûres pour les vélos un an après la mort de Paul Varry, ce cycliste de 27 ans écrasé par un SUV après une altercation? La ville de Paris affirme avoir tiré les leçons du drame en développant de nouveaux aménagements pour les cyclistes. À l'Assemblée, deux députés socialistes ont déposé la semaine dernière une proposition de loi pour renforcer la sécurité des usagers vulnérables sur la route. Le texte introduit notamment un module de sensibilisation au partage de la route lors du permis de conduire. Il reprend en fait une préconisation de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Céline Scornavaca est la coprésidente de la FUB.
Il y a vraiment un besoin de transformation de nos permis de conduire pour que ça ne soit pas simplement quelque chose qui donne le permis de conduire la voiture, mais aussi vraiment de formation de conducteurs prudents, empathiques et qui sont en respect des usagers vulnérables. Faire en sorte que les personnes qui apprennent à conduire une voiture, ils puissent aussi se rendre compte de qu'est-ce que ça veut dire quand on dépasse, par exemple, un cycliste. Une des députées travaille sur ce qu'on appelle des « vie ma vie ». Donc l'idée, c'est de mettre les automobilistes sur une bicyclette fixe et faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire déplacer à moins de 1 mètre en agglomération et 1,50 m hors agglomération. C'est de faire aussi des remises en selle pour certains automobilistes. Mais l'idée, c'est vraiment que les automobilistes puissent voir qu'est-ce que ça veut dire d'être un cycliste. On espère qu'il y ait une reprise et une coalition transpartisane qui puisse donc se saisir de cette PPL pour faire en sorte que les choses avancent. Donc nous, on pense que c'est vraiment une très bonne démarche.
Céline Scornavaca, coprésidente de la Fédération des usagers de la bicyclette, elle répondait à Julie Paco. Le temps demain restera perturbé sur la plupart des régions. Un ciel très pluvieux de l'Aquitaine à la vallée du Rhône et au centre-est. La neige revient dans les Alpes, au-dessus de 2300 mètres d'altitude. En revanche, le soleil devrait dominer sur une large partie du pourtour méditerranéen. Demain matin, il fera entre 8 et 15 degrés en général. L'après-midi, les maximales restent douces, entre 14 et 22 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec l'Agdar Olivier Benmalek, à la technique Nicolas Bonnet.